Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. On est Ahmed et Noam.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast de l'Observatoire de l'accélération du digital en partenariat avec l'ISCOM Paris, l'école supérieure de communication. Je m'appelle Noam Laouini et je vais laisser Ahmed présenter de quoi on va parler aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, vous vous parlez du marketing d'influence, en quoi ça consiste, ses points positifs, ses dérives, etc. Mais alors tout d'abord, le marketing d'influence, c'est une forme de marketing qui consiste à faire appel tout simplement à des influenceurs pour promouvoir un produit ou un service auprès de leur audience. Donc les influenceurs, c'est des personnes qui ont acquis une audience très importante ou pas, ça dépend. Il y a des influenceurs de plus d'un million d'abonnés, des petits, des micro-influenceurs. Donc ils ont acquis une audience importante sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne. Et ils sont considérés comme des experts dans un domaine en particulier, ou en tout cas comme des leaders d'opinion. Et le marketing d'influence, comme va vous le présenter Noam, c'est une tendance qui s'est bien installée.
Bien sûr. Tout le monde connaît aujourd'hui l'influence de près ou de loin. C'est une tendance qui est devenue très, très installée, surtout dans le paysage de la communication aujourd'hui. Pourquoi ? En premier lieu, parce que c'est une façon très, très intéressante pour s'adresser à une cible assez importante et assez compliquée à cibler. J'ai nommé les 18-24 ans. C'est des personnes qui vont être assez difficiles à cibler du fait qu'ils ne regardent pas forcément la télé. Aujourd'hui, Ahmed, on est d'accord que les jeunes, ça ne regarde plus forcément la télé.
Oui, en effet. Bah, d'ailleurs, d'après une étude Reach, alors 63% des 18-24 ans suivent des créateurs de contenu et encore moins regardent la télé. Donc cela, ça coïncide surtout avec la montée des réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux dans le quotidien, mais aussi... Pour les annonceurs, c'est la fragmentation des médias qui les pousse vers le marketing d'influence. Il y a de plus en plus de canaux de communication, plus en plus de canaux sur lesquels ils peuvent promouvoir leurs produits. Donc celui des réseaux sociaux devient de plus en plus puissant et permet, comme tu l'as dit, de mieux cibler, en particulier les jeunes.
Exactement.
Et ces stars des réseaux sociaux, ils ont une place spéciale dans la vie des gens qui les suivent. Il y a une relation de confiance qui se crée et une relation même d'intimité au travers d'un écran.
Exactement. Le marketing d'influence, en soi, ça repose principalement uniquement sur la confiance. En fait, on va avoir des consommateurs qui vont être susceptibles de faire confiance aux recommandations d'un influenceur en particulier, et plutôt d'ailleurs aux recommandations d'un influenceur qu'à une campagne bien précise publicitaire d'une marque ou d'une entreprise.
Clairement.
En fait, il faut considérer que les influenceurs, ils vont partager leur vie, leurs valeurs, leurs intérêts, et donc on va choisir, entre guillemets, son influenceur qu'on va suivre en fait. Il y a forcément un lien de proximité et de confiance qui s'installe dès lors qu'on va appuyer sur le bouton suivre cet influenceur. On sait qu'il est comme nous, on sait qu'il nous comprend et dès lors qu'il va s'adresser à nous, on va un peu se dire il me connaît donc forcément c'est un peu vrai ce qu'il veut me dire du coup. Ça se nourrit aussi forcément de la méfiance des consommateurs envers la publicité traditionnelle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une très grande méfiance qui est créée notamment sur les réseaux sociaux où on va avoir tendance à critiquer toute forme de marketing ancienne comme assez novatrice. Donc en fait, créer une relation de confiance, ça va être très très important pour justement éviter de se faire bâcher ensuite sur les réseaux sociaux.
Ah non, je suis complètement d'accord. Et c'est d'ailleurs, comme tu l'as dit, d'où vient la relation de confiance. On fait confiance à l'influenceur, il nous recommande un produit ou une marque et on le suit. Et pour les influenceurs, le marketing d'influence, c'est surtout la diversité des profils. On suit des profils qui nous plaisent et qui nous ressemblent, donc on est plus influencé. Et pour les entreprises, les annonceurs, ça permet surtout un meilleur ciblage, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un moindre coût par rapport aux médias traditionnels. On va toucher peut-être moins de monde, mais on touche exactement les personnes que l'on veut.
Exact. Mais je suis d'autant plus d'accord sur ce point-là, parce qu'en fait, on sait que la télé, ça va être un point où on va axer un gros budget communication pour cibler une cible très très large, là où justement le côté influence, en fait, on va pouvoir cibler une cible qui vont être principalement les jeunes, même si aujourd'hui, on trouve des influenceurs pour toutes les catégories d'âge. Et au sein de cette même cible, on va pouvoir cibler différentes audiences. On va avoir les influenceurs pour les jeunes qui s'adressent principalement sur le foot. Et on peut même aller encore plus loin, mais ça, c'est déjà des très grosses catégories. Donc, sur le foot ou sur le sport, sur la danse, des influenceurs cuisine, des influenceurs mode, ainsi de suite. Et donc, en fait, dès lors qu'on est une marque de mode, on va pouvoir aller dans plus de catégories en se disant « Bon, bah là, je vais cibler les jeunes, je vais cibler la mode et je vais cibler une cible plutôt masculine, plutôt féminine. » C'est hyper facile aujourd'hui de cibler pour une marque en s'appuyant sur l'influence.
Oui, vraiment, on peut vraiment cibler des secteurs très très nichés. Je vois même des influenceurs de poterie, etc., qui ont des partenariats avec des marques. Et pour revenir sur le marketing d'influence en lui-même, bah déjà, on associe l'image d'une marque. Ce qui peut être bénéfique, c'est d'associer l'image d'une marque à celui d'un influenceur. Si l'influenceur est bien perçu par sa communauté et qu'il promeut une marque, on va tout de suite plus lui faire confiance. Et comme je revenais tout à l'heure sur l'étude Reach, elle nous montre aussi qu'un Français sur quatre accorde sa confiance à l'avis d'un créateur de contenu au moment d'acheter un produit. Et cette part de Français qui accorde sa confiance aux influenceurs, elle est d'autant plus importante chez les jeunes. Mmh. Mais pour revenir sur tout ça, il y a aussi des dérives dans dans le marketing d'influence, c'est une pratique qui peut être assez dangereuse, Noam.
Oui, bien sûr, c'est une pratique qui peut être assez dangereuse et c'est quelque chose qui a été mis en lumière avec la loi influence récemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un phénomène qui était très neuf et du coup, quand c'est un phénomène qui est nouveau comme ça, en fait, il n'y a aucune régulation très stricte et explicite, ce qui fait qu'en fait, on peut toujours tenter de contourner les lois, contourner les règles. Ça a amené à de très nombreuses affaires d'arnaques, de fraudes, de promotion de sites de dropshipping. On sait que c'est un point qui faisait en fait que l'influence était très très mal perçue, notamment par les personnes un peu plus âgées, parce qu'on avait des histoires de parents qui se plaignaient d'avoir des enfants qui ont été amenés justement dans des histoires d'arnaque et de fraude. Et sans régulation, en fait, ça fait que ces personnes ne pouvaient même pas être punies, puisqu'en fait, on ne pouvait pas s'appuyer sur quoi que ce soit pour les punir. On a beaucoup d'exemples de stars de télé-réalité qui faisaient promotion de dropshipping. Je sais que ça avait fait un très gros sujet avec Booba qui dénonçait
Ah oui.
toute l'affaire de Magali Berda et de très nombreux influenceurs.
Ah oui, clairement, c'était assez gros. C'est même allé jusqu'à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, ça ternit l'image du marketing d'influence, bien que les marques mettent toujours autant d'argent dans le secteur. Et pour continuer sur les dérives un peu de ce domaine, on peut parler du manque d'authenticité, peut-être. Comme on l'a dit tout à l'heure, le marketing d'influence repose principalement sur la confiance qu'on accorde à l'influenceur. Mais les consommateurs sont aussi plus susceptibles de faire confiance, comme on a dit, aux recommandations d'un influenceur, s'il estime que ce dernier est authentique et qu'il partage leurs valeurs, il n'a pas forcément le droit de faire beaucoup de faux pas. Et malheureusement, certains influenceurs peuvent être tentés, comme on l'a dit, de promouvoir des produits ou des services qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils n'approuvent pas. Et ça peut clairement nuire à leur crédibilité et à leur image, et par extension, à l'image de la marque. Et on peut aussi voir, ça c'est assez bien réglé maintenant avec les nouvelles régulations, les nouvelles lois. Mais promouvoir un produit sans mentionner que c'est un placement de produit, ça peut directement faire perdre la confiance des consommateurs par rapport à l'influenceur et la marque. On a l'impression d'être lésé et on ne voudra plus jamais écouter une recommandation de cet influenceur.
Exactement.
Et souvent, cette cible-là qui se trompe ou qui se fait tromper justement par les influenceurs, c'est une audience assez jeune, Noam. T'es pas d'accord?
Ouais, bien sûr. C'est surtout une audience très jeune. Comme on l'a dit, le marketing d'influence, ça ne vit que pour les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on retrouve forcément sur les réseaux sociaux? Ça va être des très jeunes, notamment avec l'avènement de TikTok, avec le confinement. On sait que TikTok, c'est un réseau social qui permet de cibler les très jeunes allant jusqu'à 13 ans pour des marques. Et pour des influenceurs, c'est un peu du pain béni, mais c'est assez néfaste parce qu'en fait, on va s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément la lucidité de se rendre compte que notre discours est faux, que notre discours est biaisé par des côtés arnaque et côté fraude. Et donc en fait, dès qu'on est jeune comme ça et qu'on est capable d'amadouer un peu ses parents dans n'importe quel achat ou vers n'importe quel influenceur sous prétexte que justement l'enfant lui fait confiance, ça va être assez compliqué justement pour des marques ou pour quoi que ce soit de garder une bonne image de l'influence dès lors qu'il y a ce genre de pratique. C'est un peu moins le cas en ce moment, même beaucoup moins le cas avec l'arrivée justement de la loi influence, mais c'est quand même quelque chose qui a impacté très très néfastement l'image du marketing d'influence. Et en plus de ça, donc on peut lier ça à un très gros sujet, c'est qu'en fait, ça peut être bien comme négatif d'associer sa marque et son image de marque à une personnalité. Parce que dès lors qu'en fait, on collabore avec quelqu'un, il suffit que cette personne fasse un faux pas ou un pas de travers, soit mêlée dans une histoire ou possède une mauvaise image sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait une mauvaise déclaration ou un mot de travers. La marque, elle va tout de suite en payer les conséquences. Nos jours, le faux pas pour une marque, c'est plus possible. L'opinion publique, elle évolue à vitesse lumière avec les réseaux sociaux et la transmission des infos qui est plus que rapide là-dessus. En fait, n'importe quelle personne qui va avoir un peu de buzz va pouvoir justement critiquer une personne qui va être liée à une marque et la marque va en payer le prix fort, en fait. Donc, il va falloir faire très attention pour les marques dans le choix des influenceurs et garder surtout une très certaine distance. Il y a un cas qui est bien sûr flagrant. C'est Lacoste et Romeo Elvis, Ahmed.
Oui, clairement. Justement, je voulais parler de cet exemple-là. Alors, on connaît tous la proximité ou l'acquaintance qu'a Lacoste avec le monde du hip-hop depuis de nombreuses années maintenant. Mais Lacoste, pendant des décennies, n'a jamais voulu collaborer avec des rappeurs. Maintenant que le rap est devenu le genre de musique numéro 1 écouté en France, Lacoste a un peu changé sa position et s'est décidé à faire des collaborations avec des rappeurs assez connus. Donc là, on se dit que justement, c'est un bon pas. Et que, ils vont en tirer quelque chose de bénéfique. Alors, on s'est tous dit ça au début. Ils ont utilisé le marketing d'influence avec deux rappeurs en particulier. Tout d'abord, Romeo Elvis, qui est un très grand rappeur qui remplit des salles, etc. Et Moi La Squale. Alors, le problème, et ça, je reviens sur ton problème d'associer une image de marque à une personnalité, ça peut être très néfaste. Ces deux rappeurs ont été, on va dire, cancel par les réseaux sociaux et même condamnés par la justice pour des affaires de violence conjugale, d'agression sexuelle, etc. Et par extension, c'est Lacoste qui en pâtit en associant leur image à celle de ces rappeurs-là. Maintenant, quand on voit un survêtement Lacoste sur Romeo Elvis, on se dit. Lacoste soutient les agressions sexuelles, par exemple. Et ça peut être très néfaste, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et justement, il faut être très précautionneux là-dessus pour ne pas avoir un effet domino et faire tomber l'image de marque avec.
Exactement.
Et pour ces risques-là, Noam, peut-être que tu peux nous parler de comment limiter les risques, en fait, pour les annonceurs, les influenceurs, comme pour les consommateurs.
Bien sûr. Bah, en fait, il va exister plusieurs moyens, je pense, de limiter les risques liés au marketing d'influence. Les marques, elles doivent faire preuve d'une très grande vigilance lors du choix des influenceurs. Avec qui elles collaborent, avec qui elles vont verser justement une certaine somme. On retrouve aujourd'hui de très nombreuses agences de spécialisées là-dedans. Donc, les plus connues, on peut citer Webedia, qui est associé à de très grands créateurs de contenu, TikTok, Twitch, YouTube et autres. Ou encore Bump avec les plus gros influenceurs YouTube comme Squeezie, Gotaga et autres. En fait, on va avoir un côté expertise, comme se sont créées finalement les agences de publicité pour amener justement le côté créatif et le côté. Pro justement des pubs, on va avoir aujourd'hui des agences qui vont être spécialisées là-dedans et qui vont s'assurer que les choix puissent coïncider justement avec les valeurs de la marque, avec des vrais contrats qui vont être rédigés avec les agences et donc apporter une certaine sécurité et sérénité aux marques, ce qui peut justement permettre d'aller plus vers le marketing d'influence que justement rejeter les marques de cet axe qui peut être justement assez délicat à aborder. Au niveau des consommateurs, quant à eux, bah forcément, ils doivent être conscients des risques liés au marketing d'influence. Malgré le fait que la loi influence soit passée, ça peut être encore une pratique qui est très dangereuse. Maintenant, c'est plus explicite. La loi, elle est venue apporter de la crédibilité dans la façon de communiquer. Maintenant, en fait, dès lors qu'un influenceur va recevoir une certaine somme d'argent pour promouvoir un produit, il va être obligé plutôt de l'expliciter avec la mention collaboration commerciale ou partenariat rémunéré ou autre, ce qui va amener.
Et c'est nécessaire.
Oui, bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est ce qui va amener justement le côté confiance et le côté ne plus se sentir lésé en tant que consommateur ou se dire, bon, bah, en fait, il me faisait la promotion de tel produit uniquement parce qu'il recevait des sous et moi, je ne le savais pas forcément. Donc, dès lors qu'on va avoir justement cette loi qui est venue amener tout ça, on sait que ça permet aussi de voir quand une photo est retouchée, ce qui était un point qui était très reproché, notamment aux personnes de la télé-réalité qui avaient une très grande propagande des produits beauté. Avec des photos qui étaient retouchées, ce qui permettait de laisser penser aux consommateurs qu'ils allaient avoir la plus belle peau, les plus beaux cheveux, les cheveux lisses, etc. Alors qu'en fait, les photos étaient simplement retouchées et que le produit ne servait pas forcément à grand-chose. Avec tout justement ces notions qui sont plus explicites, le consommateur est mis forcément au point, en point central justement de toute cette loi et de ses agissements. Et donc, c'est un point qui est assez important. Et je pense que bien sûr, Ahmed, on peut parler de l'évolution exponentielle de Twitch. Qui n'est pas à prendre à la légère, c'est un point sur lequel il faut forcément s'axer tout en gardant une certaine distance.
Ah oui, clairement, que ce soit pour les influenceurs, les agences ou les consommateurs, on ne peut pas ignorer l'expansion de Twitch, l'évolution de Twitch. Et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense qu'il faut juste laisser le temps justement au domaine. Là, tu parlais de la loi d'influence. Pardon. Tu parlais de la loi d'influence qui est venue professionnaliser le secteur. Et il faut aussi mentionner que c'est un secteur qui est assez jeune, qui a même pas 10 ans. Donc il faut lui laisser le temps et ça va dans le bon sens. Pour Twitch, pareil, c'est une plateforme qui n'est pas très vieille et qui augmente de manière exponentielle, comme on l'a dit. Il y a de plus en plus de personnes qui consomment Twitch au quotidien et on voit de plus en plus de contenus différents. Et c'est une véritable aubaine pour les annonceurs qui veulent promouvoir leurs produits et leurs marques sur cette plateforme. Déjà parce qu'on a parlé de la relation de confiance et d'authenticité, il n'y a pas plus authentique pour un consommateur de voir son influenceur en live. Il ne peut pas mentir en live, il n'a pas de montage. Et ça permet aussi, vu l'audience qu'a Twitch et la panoplie de streamers qu'il y a et de thèmes, de trouver toutes les audiences qu'ils veulent, autant que sur les autres réseaux sociaux maintenant, avec le côté live en plus. Alors, pour Twitch, il y a un vrai avenir dans la communication pour les marques et un nombre d'axes infinis pour communiquer sur n'importe quel produit ou n'importe quel service. Et c'est vraiment un acteur sur lequel il faudra compter à l'avenir, et même dès maintenant d'ailleurs.
Bien sûr. Et ça fait un lien aussi très certain avec le côté axe créatif de communiquer pour les marques. On peut prendre forcément l'exemple de la publicité. Les publicités au départ, c'était forcément très très rodé sur des points qui étaient très classiques où on va juste avoir un influenceur qui vient promouvoir un produit avec un discours assez classique, très souvent écrit par les marques, ce qui posait problème parce que ça vient poser problème justement dans le côté authentique, où on sent que le streamer ou l'influenceur va réciter un texte plutôt que parler de lui-même. En fait, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de concepts créatifs. On peut prendre l'exemple de Squeezie avec le fait d'appeler des abonnés et d'offrir 100 000 euros de voyage avec Revolut. C'est un concept qui a été mené par Revolut, mais qui est très libre dans le sens où Squeezie va appeler lui-même ses abonnés. Il va tenir lui-même le discours de marque en expliquant que Revolut l'a aidé dans ce process pour donner une carte bancaire qui va évoluer à l'étranger et qui va leur permettre de faire leurs dépenses et autres. On retrouve aussi Nokstag avec un loup-garou qui a été organisé dans la vraie vie avec NordVPN. C'est une façon de communiquer qui est très novatrice en fait et qui peut permettre justement à toutes les marques de s'imaginer des concepts. N'importe quelle marque aujourd'hui peut développer n'importe quel concept avec n'importe quel influenceur. Il faut juste cibler justement l'influenceur qui va coller avec la marque, trouver un concept créatif qui va bien s'articuler avec le discours qu'on veut faire passer, la promotion qu'on veut faire passer. Et en fait, c'est des possibilités infinies aujourd'hui pour les marques. On a même vu récemment l'assurance maladie qui a sponsorisé un contenu comme Zen, qui est une émission
Ah oui, j'avais bien rigolé.
humoristique sur Twitch. C'est du jamais vu. C'est l'assurance maladie qui vient
Un organisme
sponsoriser un
public.
contenu de... Oui, bien sûr. C'est des blagues qui sont jugées à la limite justement de l'humour qui est toléré dans notre société. Et en fait, c'est très novateur de voir l'assurance maladie sponsoriser un contenu comme ça. Et ça montre qu'il n'y a plus de limite en fait pour les marques. Et que si on veut cibler justement les jeunes, faut les cibler avec les gens que les jeunes suivent et que les jeunes adorent parce que justement ils sont assez rodés dans tout le côté discours et manière de s'adresser aux jeunes.
Tout est possible maintenant avec le marketing d'influence, vraiment. Et comme tu disais, avec Squeezie ou encore Inoxtag, ça marche surtout très bien quand on voit que l'influenceur, la personne en qui on a confiance, est libre et nous montre vraiment, et en tout cas croit en la marque et le produit, et a une vraie relation avec la marque en elle-même. Et donc ça laisse plein d'opportunités à l'avenir pour différentes marques, l'assurance maladie, pourquoi pas plus tard d'autres organismes publics. Et on souhaite en tout cas le meilleur au marketing d'influence qui va encore continuer à évoluer, on espère pour le meilleur et on pourra suivre ça dans les prochains mois, prochaines années avec vous.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés
Merci à tous.
et bonne soirée. Au revoir.